France Info.
Voilà, vous avez pu suivre la conférence de presse de François Molins sur France Info, le procureur de la République de Paris, qui était là exceptionnellement à Carcassonne, bien sûr, conférence de presse pour parler de cette prise d'otage dans un supermarché, pardon, cet après-midi à Trèbes, qui s'est conclue par la mort du preneur d'otage par les gendarmes du GIZN. Ils ont donné l'assaut. Laurent Doulsan, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous suivez bien sûr depuis le début de l'après-midi cette affaire. Qu'a-t-on appris de plus ce soir après les propos de François Molins?
Alors François Molins a confirmé le scénario que l'on connaissait déjà dans les grandes lignes depuis le début de l'après-midi, c'est-à-dire l'organisation de cette attaque terroriste en trois séquences. Une première séquence avec l'attaque d'une voiture dans une cité près de Carcassonne. Là, le terroriste a commencé par abattre le passager de cette voiture, a blessé très grièvement le conducteur, a s'emparé du véhicule. Il s'est ensuite rendu auprès d'un groupe de CRS qui revenait de son jogging. Là, il a encore ouvert le feu, blessant un CRS grièvement à l'épaule et avec un poumon perforé. Et puis, ce parcours terroriste s'est terminé, Monsieur Molins l'a rappelé, au Super U de Trèbes. Là où Monsieur Molins a donné quelques précisions que l'on n'avait pas, c'est comment ça s'est déroulé, en fait, à son arrivée dans le magasin. Le procureur de la République de Paris a précisé qu'il y avait à ce moment-là une cinquantaine de personnes dans ce Super U, que la séquence a apparemment été très violente d'emblée, avec un terroriste se réclamant, criant qu'il appartenait à l'État islamique et criant « Allahu Akbar » en pénétrant dans le magasin. Il a demandé, a précisé encore le procureur, la libération de frères d'armes, du djihad, faut-il comprendre. Et puis, devant la violence de l'échange, devant la prise d'otage qui semblait pouvoir dégénérer d'un moment à l'autre, François Molins a précisé, a rappelé qu'un gendarme, un officier de gendarmerie, a proposé aux terroristes d'échanger sa place contre celle des otages. C'est lui qui a été blessé très très grièvement au cours de l'assaut.
Voilà, très grièvement. Une chose aussi, Laurent, on s'aperçoit que l'enquête continue aujourd'hui, que c'est toujours cette théorie du tueur isolé, mais on voit qu'aujourd'hui, ça continue tout de même.
Alors effectivement, sur le plan de l'enquête, François Molins n'a pas donné beaucoup de précisions ce soir à ce stade. Il a dit qu'il tiendrait la presse au courant des futurs développements. Il a rappelé que l'auteur des faits était connu pour des faits de petite délinquance, trafic de drogue, etc. Il a rappelé qu'il avait été fiché S, donc il avait été repéré tout de même ces dernières années pour des symptômes de radicalisation.
C'est ça, ouais.
Et que il ne s'était plus signalé ces derniers mois. Ça, selon nos informations, sa surveillance avait même été un petit peu relâchée avant d'être réactivé ces derniers mois.
Voilà, en tout cas, même Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a parlé d'une surprise même pour les forces de l'ordre. Une dernière chose, Laurent, l'enquête donc continue, on l'a appris tout à l'heure, une femme en ce moment est interrogée par la police, on ne peut pas parler encore de réseau, mais en tout cas, on voit que ça va prendre du temps, ça va continuer à enquêter dans le secteur de Carcassonne.
Alors effectivement, il va s'agir de comprendre comment cet homme s'est radicalisé et comment il est passé à l'acte. Effectivement, il y a une nouveauté ce soir, c'est qu'une personne de son entourage, une femme, a précisé le procureur, est en garde à vue. J'imagine que l'on va aussi s'intéresser à toutes les correspondances de Redouane Lactim sur les réseaux sociaux, sur son ordinateur va évidemment être décrypté, son téléphone, etc.
Merci beaucoup en tout cas Laurent Doulsan d'être venu pour nous débriefer cette conférence de presse de François Molins qui vient de s'exprimer à l'instant en direct de Carcassonne. Vous l'avez suivi toute la journée sur France Info. Il s'appelait donc Redouane Lactim et agit seul et agirait seul en fait ce soir. Voilà comment le portrait dressé par le ministre de l'Intérieur de l'homme qui a d'abord braqué, donc on l'a dit, un automobiliste ce matin à Carcassonne pour lui voler sa voiture. Il a ouvert le feu, le passager est mort, le conducteur a été blessé. Il s'est ensuite pris à une patrouille de CRS donc à Carcassonne, puis a investi un supermarché de Trèbes et retenu plusieurs clients en otage. Beaucoup ont pu s'enfuir. Vers 14h45, les gendarmes du GIGN ont donné l'assaut. Le preneur d'otage a été abattu. Deux hommes du GIGN ont été blessés. blessés. Le bilan, 3 morts, 16 blessés, dont 2 dans un état grave. Ce soir, pour en parler autour de la table des informés de France Info, nous recevons Jérôme Poirot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien adjoint du coordinateur au renseignement et vous sortez dictionnaire du renseignement. Ça tombe bien. Également Benoît Barret, secrétaire national adjoint au syndicat Alliance pour la province. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et également Étienne Gérard de Marianne. Bonsoir.
Bonsoir.
Une nouvelle fois, je vais aller vers vous aussi, Benoît Barret, car on voit des forces de l'ordre également une nouvelle fois prises pour cible.
Bah oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut encore à nouveau constater que des policiers, donc des collègues CRS hein, qui revenaient de faire du sport, qui ont à nouveau été pris pour cible. On se rend bien compte aujourd'hui que les forces de l'ordre, hein, que ce soit les forces de l'ordre ou les pompiers ou les gendarmes, hein, sont effectivement pris pour cible par des délinquants, des voyous, des terroristes. Bah, on se rend bien compte aujourd'hui que le dernier rempart dans la société, c'est la police, les forces de l'ordre. Donc effectivement, les terroristes, pour faire peur, encore plus peur à la population, bon, là-bas, on tente d'abattre des policiers. Puisque c'est quoi le summum de l'horreur en plus ? Regardez, même la police ne peut pas vous protéger. C'est en gros le message qu'ils tentent de faire passer. Donc effectivement, les collègues savent très bien qu'ils deviennent de plus en plus des proies, des cibles pour ces voyous. Et c'est pour ça qu'on a réussi dernièrement, c'est vrai que je passe, on aura l'occasion d'en parler, mais il y a eu une modification dans le code de la sécurité intérieure, notamment pour l'usage des armes. Mmh. Et on s'est bien rendu compte que le droit... La législation devait être modifiée justement pour que les policiers puissent mieux se défendre. Et je reviens également, donc les policiers sont des cibles, effectivement en activité, c'est vrai, mais aussi dans le privé. Rappelez-vous le drame, l'ignominie de Magnanville.
Magnanville, en effet. Alors c'était un couple, en effet, de policiers qui avaient été assassinés chez eux.
Exactement, c'est pour ça que c'est important. On a obtenu, il y a peu de temps, la possibilité pour les policiers de pouvoir, en tout point du territoire et en permanence, être armés. Et ça, c'est extrêmement important. Mais ça ne va pas encore assez loin, parce que vous avez encore des endroits, des salles de concert où on reçoit du public, on interdit l'accès des policiers avec leurs armes. C'est une sottise de faire ça. On se rend bien compte que, outre le fait que les policiers deviennent des cibles privilégiées de ces auteurs, de ces ignobles attaques, on se rend bien compte que, eh bien oui, un policier armé, et on se rend bien compte également, malheureusement, que les attaques terroristes peuvent être en tout point du territoire national. Ce n'est pas simplement concentré sur les grandes agglomérations, mais également dans n'importe quel petit super-U, n'importe quel commerce en France. Et ça, effectivement, on se rend bien compte que le terrorisme, il est partout. D'où l'intérêt notable que les policiers, même dans le privé, puissent être armés pour éventuellement faire en sorte d'intervenir avant que ça aille trop loin.
Alors on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Lauriane Delanoë.
Les hommages aux victimes et leurs familles des 3 attaques terroristes de l'Aude. Le procureur de la République à Paris leur adresse ses premières pensées. 3 morts et 16 blessés au moins ce matin à Carcassonne et Trèbes, une petite commune voisine. Un même assaillant a d'abord attaqué des automobilistes puis des CRS dans Carcassonne. Enfin, une prise d'otage de près de 3h30 dans un supermarché à Trèbes. Assaut du GIGN, l'attaquant abattu. Il s'agit de Redouane Lakdim, 25 ans. Il a dit agir au nom de l'organisation État islamique dès qu'il est entré dans le magasin. C'est un franco-marocain fiché S depuis 2014. Vient d'indiquer le procureur François Molins, condamné déjà pour des faits de droit commun. Une femme qui partageait sa vie vient d'être placée en garde à vue. À retenir également ce soir la condamnation d'une mère de 37 ans condamnée à 8 ans de prison par la cour d'assises de Gironde pour des meurtres, des infanticides. Cette femme a tué 5 de ses nouveau-nés juste après son accouchement entre 2009 et 2015. Les Français partagés sur la mobilisation des cheminots et des fonctionnaires hier pour une courte majorité, 55%. Cette journée de manifestation est plutôt un échec d'après un sondage Autoxa d'Enso Consulting pour France Info et Le Figaro. Entre 320 et 500 000 personnes hier dans les rues de France.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous revenons bien sûr sur cette prise d'otage donc dans un supermarché de Trèbes, un acte rapidement qualifié de terroriste hein, par le parquet antiterroriste, 3 morts, 16 blessés, dont 2 dans un état grave. Jérôme Poirot, il y a juste un point que l'on fait malheureusement à chaque fois, c'est sur ce terme fiché S. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout, est-ce que ça représente véritablement quelque chose encore? Parce que pour beaucoup de Français, on a vu encore des politiques aujourd'hui dire « Oh là, fiché S, faut tous les renvoyer, ça suffit ». Qu'est-ce que c'est et surtout, est-ce que ça a une utilité encore aujourd'hui?
Bien sûr. Être fiché S, c'est simplement avoir attiré suffisamment l'attention
pour être mis sous surveillance. Et en fait, les gens qui sont au fichier S, il y a différents crans, donc avec un niveau de risque différencié. Eh bien, quand vous faites l'objet d'un contrôle de police tout simple, parce que vous avez grillé un feu rouge, parce que vous passez à la douane, parce que des services de police ailleurs dans l'espace européen vous contrôlent, quand ils rentrent votre nom dans leur ordinateur, ils vont s'apercevoir que une autorité de police française, espagnole, allemande a signalé l'individu. D'accord. Et donc, ça permet, en fonction du niveau de fichier S, de recueillir des informations complémentaires.
Mais est-ce que c'est possible, comme de ce dont on parle, par exemple, on entend aussi d'autres personnes dire, est-ce que c'est possible de contrôler tous les fichiers S?
Ça dépend de ce qu'on appelle contrôler. Ce sont des personnes qui font l'objet d'une surveillance particulière, parce qu'on considère qu'ils présentent un danger, mais ils ne sont pas dangereux à un stade suffisant pour qu'ils puissent être traduits devant la justice et être emprisonnés.
Alors, tout à l'heure, on en parlait d'Étienne Gérard. Vous, ce qui vous a étonné, ce sont les propos de Gérard Collomb, justement, sur place. Parce que, finalement, ce propos, on ne s'y attendait pas. Pourquoi ça vous a surpris ?
Il a même dit, nous pensions qu'il n'était pas radicalisé. C'est vrai que ça étonne, dans la mesure où le procureur Molins nous explique ce soir qu'il était fiché S depuis 2014. Et c'est vrai que là, on est sans doute dans une personnalité qui était dans une zone grise. C'est-à-dire il avait attiré suffisamment l'attention pour être fiché S, mais pas suffisamment pour faire l'objet d'une surveillance poussée. En tout cas, ce que nous dit Gérard Collomb, c'est que on ne s'attendait pas à ce qu'il passe à l'acte rapidement. Mais il me semble que là, au niveau de la communication, il y a quand même quelque chose qui n'est pas net, et des mots qui n'ont pas forcément été pesés quand il nous dit que nous pensions qu'il n'était pas radicalisé. Pourquoi était-il alors fiché S?
Benoît Barré.
Alors, moi, je pense que ce soir, il y a pas de polémique à avoir sur les services de renseignement de la police nationale, de la gendarmerie nationale. La polémique n'a pas lieu. Juste pour repréciser ce que c'est que les fichiers S, c'est pas surveillance. Faut arrêter de croire que la fiche S, c'est surveillance.
D'accord,
c'est
parce sûreté. Qu'on nous dit, voilà, sûreté.
C'est pas
d'accord,
surveillance.
D'accord.
13 000, 14 000 fichiers S en France. Quelques chiffres, quand même. Faut quand même, c'est
bien
après
sûr.
Ça. Mais, les renseignements territoriaux, c'est 2600 collègues. La DGSI, c'est 3000 collègues. Comment voulez-vous? Sérieusement, qu'on puisse avoir les moyens humains de pouvoir faire surveiller entre guillemets tout le monde. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est pas l'objet de la fiche S. L'objet de la fiche S, vous l'avez très bien rappelé, c'est des personnes qui ont attiré l'attention, mais pas forcément des radicalisés. Des personnes qui ont attiré l'attention, et effectivement, lors d'un contrôle de police en France ou en Europe, effectivement, dans la fiche, on s'aperçoit qu'il faut soit regarder avec qui il est, vers où il va. C'est ça une fiche S, mais ce n'est pas une surveillance. Ça, c'est le premier point. Le second point, ce que j'ai envie de dire, c'est que le vrai débat qui doit être mené aujourd'hui, je crois que c'est le principe des niveaux de cercle du renseignement en France. Je vais faire du très simple.
Ouais,
vous
oui.
avez deux niveaux de cercle du renseignement en France. Deux niveaux. Vous avez un premier niveau, plus d'ordre judiciaire. Il y a six services du contre-espionnage, de la DGSE. Voilà, ce sont des services véritablement sur le judiciaire. Et le deuxième cercle, c'est, par exemple, c'est le renseignement territorial. Le premier cercle, c'est la DGSI. Le deuxième cercle, c'est le renseignement territorial. Les collègues où il y a le plus de maillage partout en France. Nous, ce qu'on dit ce soir, c'est qu'il doit y avoir un débat. Et on ne peut pas l'occulter, ce débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore avoir deux cercles de renseignement? Est-ce qu'on ne peut pas fusionner un seul cercle de renseignement, une seule communauté du renseignement, qui pourrait permettre à tous les enquêteurs de France de pouvoir allier l'administratif et le judiciaire.
Alors, justement, Jérôme Poirot, quand vous entendez ça, vous qui avez travaillé dans ces renseignements, on parle beaucoup aussi à un moment du démantèlement des RG. On entend beaucoup de choses, finalement, depuis qu'on a trouvé, finalement, ces attentats qui nous ont tous frappés depuis janvier 2015. Est-ce que ça avance, d'ailleurs, au niveau du renseignement?
Ça avance à grands pas. Je peux exprimer un désaccord.
Je t'en prie.
Ce qui vient d'être dit, et je crois que la question n'est pas de savoir qui appartient à tel cercle, c'est de faire en sorte que l'ensemble des services de police, de gendarmerie et d'autres administrations, on peut parler des polices municipales aussi par exemple, que tout le monde soit impliqué et soit dans une chaîne qui permette que toutes les informations qui méritent d'être transmises soient transmises.
Mais excusez-moi, mais pour vous, ce n'est pas le cas aujourd'hui ?
Mais bien sûr, c'est le cas.
Ah, c'est le cas ?
Oui,
ah,
et c'est pour ça que cette question de premier cercle, deuxième cercle me semble tout à fait secondaire. Mais depuis 2015, il y a énormément de choses qui ont été faites en faveur des services de renseignement en faveur d'autres administrations. Et puis, le droit a aussi été adapté pour pouvoir mieux détecter et mieux entraver les projets terroristes.
Alors, je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron, le président de la République, qui s'est exprimé, d'ailleurs, de manière assez courte, tout à l'heure. Voilà, on va l'écouter, il était aux côtés d'Édouard Philippe, c'est Emmanuel Macron.
Nous avons, depuis plusieurs années, payé le prix du sang pour savoir la dangerosité de la menace terroriste. J'invite chacune et chacun de nos concitoyens à être conscient de la gravité de la menace terroriste, mais à être également conscient de la force et de la résistance que notre peuple a démontré chaque fois qu'il a été attaqué.
Voilà, Emmanuel Macron, tout à l'heure, donc après l'assaut donc du GIGN, ils ont abattu donc le preneur d'otages. Son nom, ce preneur d'otages, c'est Redouane Lakhdim. Il faut également citer, et bien sûr encore plus, le lieutenant-colonel de gendarmerie qui a eu ce courage fou hein, de s'échanger lui-même à la place d'un otage. Il s'appelle Arnaud Beltrame et ce soir, il est très sévèrement blessé. Un mot, Benoît Barret, quand... voilà, aujourd'hui, on se dit, on est frappé depuis 2015 par ces attentats, par ce terrorisme islamique. Est-ce que aujourd'hui, sur le terrain, auprès des policiers, est-ce qu'on a tiré toutes les conclusions? Est-ce que les choses ont véritablement changé?
Oui, il y a comme des évolutions.
Ça évolue.
Ouais, ça évolue. Effectivement, c'est évolué dans le bon sens. La législation a changé. On a quand même permis d'avoir un peu plus de pouvoir et d'effet. En tout cas, on a eu plus de moyens matériels, humains. Ça, c'est important. Il y a eu également une prise de conscience. Il y a eu une approche différente. Et vous savez, lorsque je parlais du renseignement tout à l'heure, même si on est en désaccord, nous, on reste persuadés que c'est un débat qui est majeur. Au contraire, et tout sauf à mettre à côté, je pense que c'est majeur. Par contre, le renseignement, c'est l'affaire de tous. Effectivement, la police nationale a pris en considération cela. Parce qu'on parle du service de renseignement, mais on doit parler aussi de tous les collègues qui travaillent au quotidien, 24 sur 24, les collègues de brigade, les collègues du service général. Tous ces collègues-là ont effectivement le travail à faire de pouvoir connaître correctement les gens qu'ils contrôlent au quotidien. Et puis, par contre, il y a encore des pans législatifs qui ne vont pas assez loin.
C'est quoi pour vous, par exemple?
Par exemple, je donne un pan, on se pose la question, le débat également doit être posé. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on ne doit pas pouvoir contrôler tout le monde à tout moment quand on le souhaite? C'est une question qu'il faut se poser. Alors effectivement, on peut très bien faire la politique de l'autruche et dire surtout pas, on va encore attenter aux libertés publiques. Mais c'est quoi les libertés publiques aujourd'hui? Liberté publique, c'est de pouvoir aller faire ses courses dans un marché U sans se faire tuer. Liberté publique, c'est pouvoir aller à l'église prier sans se faire tuer. C'est pouvoir aller un 14 juillet sans se faire tuer. C'est ça, les libertés publiques. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, les libertés publiques, si on veut véritablement sauver les libertés publiques, bah, quelque part, il faut se dire, bah oui, effectivement, peut-être que la question du contrôle d'identité doit être posée. Une fichesse, ça sert à quoi si on peut pas contrôler au final? Imaginez. Mmh. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut encore aller plus loin. Il faut se dire également... Mais il faut se poser les bonnes questions, puisque à un moment donné, on sait très bien que le risque est important. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, le risque zéro n'existe pas. On doit être capable de se poser les bonnes questions. Véritablement, cet effet, il y a eu des avancées. On est sorti d'état d'urgence. On est arrivé sur une loi spécifique contre le terrorisme. C'est vrai. Mais maintenant, il faut également encore essayer d'aller plus loin. Nous martelons à dire qu'effectivement, cette cohabitation de différents services de renseignement, à un moment donné, il faut parler de communauté du renseignement.
Alors, on va continuer à en parler justement dans un instant. L'info à 20h21, Lauriane Dehanoë.
L'assaillant de l'Aude, Redouane Lakhdim, était fiché S depuis 2014. Le procureur de la République à Paris, François Molins, vient de l'annoncer et de donner des précisions sur les trois attaques terroristes de ce matin. Au moins trois morts, le passager d'une voiture à Carcassonne, une cliente et un employé d'un supermarché de Trèbes, commune de 6000 habitants. 16 blessés, dont 2 dans un état grave, parmi eux un lieutenant-colonel de gendarmerie qui lutte ce soir contre la mort. Arnaud Beltrame s'est porté volontaire pour prendre la place d'une otage dans le magasin. C'est grâce à lui que le GIGN a pu déterminer quand lancer l'assaut. L'attaquant abattu, il avait indiqué être un soldat de l'organisation État islamique. Une de ses proches, une femme qui partageait sa vie, est en garde à vue ce soir. À la une également, le placement en détention provisoire du candidat à la présidence de la Catalogne et de 4 autres indépendantistes catalans, suite de l'enquête sur la tentative de sécession de la région espagnole en octobre dernier. Quelques dizaines ou centaines d'euros pour aider les malades du sida et soutenir la recherche contre le VIH. C'est ce week-end le SIDAction, événement caritatif pendant lequel vous pouvez donner, notamment sur le site internet de l'association.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous continuons à parler de cette prise d'otage donc dans un supermarché de Trèbes hein, cet après-midi, qui s'est terminée vers 14h45 la mort hein, du preneur d'otage. Alors une chose, Jérôme Poirot, vous qui avez ancien adjoint du coordinateur au renseignement, il y a une chose qui a été mise en place à l'Élysée depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on appelait la task force. Alors voilà, un nom comme ça, c'est-à-dire réunir finalement tous ces renseignements antiterrorisme autour du président de la République. Est-ce que ça sert à quelque chose?
Bien entendu.
Oui.
En fait, le renseignement français a beaucoup changé depuis 10 ans. Et en fait, depuis 2007, les présidents de la République ont considéré que les questions du renseignement devaient dépendre d'eux et qu'ils devaient les assumer politiquement et les piloter. Donc c'est Nicolas Sarkozy qui a lancé ça en 2007. Son successeur, François Hollande, a maintenu le dispositif et s'en est beaucoup servi. On oublie parfois, mais la politique étrangère qui a été menée pendant le précédent quinquennat et les conflits qui ont conduit la France à être engagée militairement, eh bien, elles se sont appuyées aussi sur un appareil de renseignement très important. Et le nouveau président de la République, il a donné une ampleur nouvelle à ces dispositifs parce qu'il est convaincu que le pilotage doit être encore plus étroit et encore plus entre ses mains.
Mais est-ce que c'est pas un risque aussi pour lui, en gros, politiquement dans ces cas-là aussi, c'est-à-dire que c'est lui qui assume tout.
Mais oui, mais j'entends souvent cela, mais nous sommes dans la Ve République et vous savez, le président de la République a des pouvoirs très importants chez nous. Par exemple, c'est lui qui peut déclencher le feu nucléaire.
Tout à fait. Étienne Gérard, on l'a entendu tout à l'heure, comme nous disait Benoît Barret, il y a eu ce débat à un moment, sorti de l'état d'urgence. Bon, on a vu quand même que les principales dispositions étaient tout de même dans cette nouvelle loi. Ce soir, sur France Info, Éric Ciotti dit « Moi, je veux de nouveau le rétablissement de l'état d'urgence ». On sent que c'est toujours quelque chose de prégnant, de fort chez certains en politique.
Oui, c'est une façon d'envoyer un clin d'œil à son électorat. Ça n'a pas grand sens aujourd'hui, puisque les principales dispositions de l'état d'urgence, elles ont été inscrites dans le droit commun par la loi d'octobre 2017. On retrouve un peu les figures imposées habituelles de jours d'attentats. La droite qui demande le rétablissement de l'état d'urgence, l'internement des fichiers S, l'expulsion des fichiers S binationaux ou étrangers. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, de mon point de vue. Parce que nos libertés publiques ont quand même un intérêt. Et par exemple, prenons le cas de l'attentat d'aujourd'hui. Est-ce que rétablir l'état d'urgence aurait permis de l'éviter? J'en suis pas sûr.
Oui, Benoît Barret, est-ce que c'est encore une discussion à avoir sur cet état d'urgence?
Non, je crois pas qu'il y ait une discussion à avoir sur l'état d'urgence. Je pense que c'est le débat est. Oh. Moi, je ne veux pas placer le débat sur le terrain politique.
Non, bien sûr, je préfère le dire. Bien sûr, c'est pas que politique.
C'est vrai qu'il y a quand même quelques nuances entre l'état d'urgence et la loi sur le terrorisme. L'état d'urgence, on a connu des perquisitions administratives. Alors, effectivement, ça a créé beaucoup de travail, mais il y a aussi quand même quelques résultats, des bons résultats. La visite est saisie actuellement dans la nouvelle loi. Ça dépend d'un juge, ce qui est logique, mais les collègues le ressentent un peu moins effectif, ouais. En tout cas. Il faut l'avis de la personne. Enfin, voilà, c'est toujours très long. Nous, à un moment donné, si le débat doit y avoir, c'est effectivement la question, c'est est-ce que le terrorisme, on peut le gérer avec du droit commun? C'est la question qu'il faut se poser.
Ouais, bien sûr.
Est-ce qu'on ne doit pas avoir un droit exceptionnel pour le terrorisme? Sans parler d'état d'urgence, ne parlons pas de la sémantique politique ou de la sémantique autre. C'est ça la question.
Mais après, la question qu'on va vous poser, c'est est-ce qu'on peut en sortir aussi, parce qu'il y a un moment...
Non, pas en sortir. Maintenir des possibilités législatives dans un contexte terroriste, avec des vraies possibilités coercitives. Avec la possibilité, pour des collègues du renseignement territorial, d'avoir pouvoir faire des actes coercitifs. C'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, à un moment donné, je veux dire, on doit avoir la possibilité, lorsque vous avez des signaux faibles qui viennent de signaux forts, de pouvoir avoir une véritable emprise coercitive sur ces personnes-là. Si on n'a pas ça, effectivement, il est là le problème. C'est que peut-être que la loi sur le renseignement, peut-être qu'elle n'a pas, que la loi sur le terrorisme, peut-être n'a pas été assez loin, et qu'effectivement, mais la loi, je veux dire, c'est le législateur, c'est les députés, c'est les sénateurs, on peut toujours revoir certains points.
Eh ben, écoutez, en tout cas, on va voir s'ils vous ont en tout cas entendu. Merci beaucoup, Benoît Barret, vous êtes secrétaire national adjoint du syndicat Alliance pour la province. Merci d'être passé ce soir aux informés de France Info. Nous, on va continuer, bien sûr, à développer, à tenter de comprendre ce qui qui s'est passé en tout cas cet après-midi donc dans ce supermarché et ce matin aussi également à Carcassonne. Voilà, on revient dans quelques minutes dans les informés de France Info.
Vraiment ? Ça s'appelle Vraiment ?
Oui, Vraiment, c'est le nouvel hebdomadaire vraiment sérieux, vraiment curieux. Chaque mercredi, on vous informe sur les vraies transformations de notre époque, France, monde, culture, 84 pages pour vous informer vraiment. En couverture du numéro 1, WhatsApp, l'application qui réinvente les relations avec nos proches.
Vraiment, en vente chaque mercredi.
Une belle histoire avec Business France.
Pour la PME que je dirige, le développement à l'international est une priorité. Avec Business France, nous avons pu recruter les commerciaux et les technico-commerciaux dont nous avions besoin. Ce sont des VIE, volontaires internationaux en entreprise, des jeunes de 18 à 28 ans dont les capacités et l'expérience font vraiment la différence. Résultat, un bond de 30% du chiffre d'affaires à l'export. Une belle histoire.
Renseignez-vous. 0810 659 659, coût d'un appel local. Ou export.businessfrance.fr.
Réagissez à l'actualité sur les réseaux sociaux avec le hashtag France Info. France Info Météo avec le CIC, banque de prêt d'une PME sur trois en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Jean-Pierre Hameau.
Nous allons retrouver un temps perturbé demain matin de l'Aquitaine au Languedoc-Roussillon en passant par Midi-Pyrénées et du Limousin jusque vers la Basse et Haute-Normandie. Les pluies seront soutenues autour du Golfe du Lion. À l'arrière de la Bretagne et la région Poitou-Charentes, temps de traîne alternant les éclaircies et les passages nuageux. Et partout ailleurs, votre matinée sera bien ensoleillée. À noter la présence de quelques bancs de brouillard, en particulier du côté du Val-de-Saône. Peu d'évolution l'après-midi avec un ensoleillement généreux de la région PACA aux frontières du Nord et du Nord-Est. Des pluies soutenues autour du golfe du Lion remontant jusque vers les Cévennes. À noter de bonnes chutes de neige au-dessus de 800 mètres vers la montagne Noire. Et partout ailleurs, le ciel sera variable avec des averses orageuses en Aquitaine. Côté température, les minimales au lever du jour seront froides dans le nord-est et comprises entre 0 et moins 2 degrés et entre 0 et 8 degrés ailleurs. Les maximales seront en hausse, comptez 10 à 15 degrés en général et jusqu'à 17 degrés près de la Méditerranée.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Thomas Chauner, bonsoir.
Bonsoir à tous, sa parole fait foi après chaque attentat. Le procureur de Paris, François Molins, vient de faire le point après les attaques terroristes d'aujourd'hui dans le département de l'Aude. 3 morts et 16 blessés, c'est le dernier bilan. L'auteur de ces attaques, Redouane Lagdim, a été abattu. Il était fiché S, celle qui partageait sa vie a été interpellée et elle est ce soir en garde à vue, c'est ce qu'annonce François Molins. La virée mortelle de Redouane Lagdim a débuté à Carcassonne après avoir volé une voiture et tué le passager. Il a ensuite foncé sur 4 CRS qui finissaient leur footing, et puis ensuite cette prise d'otage dans le Super U de Trèbes. On écoute François Molins.
L'auteur des faits est entré dans le magasin Super U en criant « Allah Akbar » et en indiquant qu'il était un soldat de l'État islamique, se disant prêt à mourir pour la Syrie. Il sollicitait la libération de frères avant de tirer sur un client et un employé du magasin qui, tous deux, décédaient sur place. Les otages étaient libérés dans le cadre d'une négociation au terme de laquelle le colonel du groupement de gendarmerie de l'Aude échangeait sa place avec celle des otages. L'auteur sortait alors du supermarché en menaçant le colonel de gendarmerie avec son arme, sollicitait la remise d'un chargeur et menaçait de tout faire sauter en cas d'intervention des forces de la gendarmerie. Il se retirait alors ensuite dans le supermarché. Dans des circonstances qui restent à préciser, il tirait alors à plusieurs reprises sur le colonel qu'il blessait très grièvement. Ces tirs déclenchaient alors l'assaut du GIGN qui neutralisait l'auteur des faits à 14h20. Deux gendarmes du GIGN ont été blessés au cours de cette opération.
Et ce lieutenant-colonel dont parle François Molins, c'est Arnaud Beltrame. Emmanuel Macron, dans l'après-midi, lui a rendu hommage. Il est ce soir entre la vie et la mort. Le chef de l'État qui a précisé que la revendication de Daesh était en cours d'analyse. Des manifestants ce soir dans les rues de Barcelone, 13 dirigeants indépendantistes ont été inculpés aujourd'hui pour rébellion. 5 sont en détention provisoire et il y a parmi eux le candidat à la présidence de la région. La Cour suprême espagnole leur reproche à tous la tentative de sécession d'octobre dernier. Le parquet de Montpellier ouvre une enquête après les violences de la nuit dernière à la fac de droit. Plusieurs personnes cagoulées sont entrées pour déloger des étudiants qui occupaient un amphithéâtre, une occupation pour protester contre la réforme de l'entrée à l'université. Des étudiants qui ont été frappés à coups de lattes de bois. Le football avec le coup d'envoi dans une demi-heure maintenant de France-Colombie. Un match amical pour permettre notamment au sélectionneur Didier Deschamps de se décider sur qui il va emmener en Russie pour la Coupe du Monde. Le match se joue au Stade de France. France Info, il est bientôt 20h33. On retrouve les informés. C'est au tour de Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Nous revenons sur la prise d'otage survenue en début d'après-midi à Trèbes dans l'Aube, une matinée et après-midi meurtrière qui a fait 3 morts, 16 blessés, dont 2 dans un état grave. Pour en parler autour de nous, il y a Étienne Gérard de Marianne, également Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordinateur au renseignement, et Audrey Goutard de France Télévisions va nous rejoindre dans quelques instants. Mais pour l'instant, nous partons justement sur le terrain à Trèbes, rejoindre Alain Gastal. Bonsoir Alain.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Alors, vous avez vécu toute la journée à Trèbes pour France Info, vous nous avez relaté les événements. Ce soir, sur place, les opérations sont-elles terminées ou il y a toujours autant de forces de l'ordre ?
Non, il y a beaucoup de forces de l'ordre, ne serait-ce que pour sécuriser, pour rassurer les gens, mais les opérations, a priori, sont terminées. Il y a encore des policiers et des spécialistes des empreintes, notamment, qui sont sur place au Super U pour recueillir tous les éléments, pour voir effectivement tous les impacts de balles, combien de coups de feu ont été tirés, et tous ces éléments-là. Mais, a priori, le dispositif policier a été en partie levé, en partie, je dis, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'autoriser tous les badauds qui, évidemment, voudraient venir voir et qui provoquent d'ailleurs quelques embouteillages, notamment entre Carcassonne et Trèbes, où on a du mal à passer. Donc, il y a encore un filtrage de sécurité à l'entrée de Trèbes, donc pour éviter qu'il y ait trop de monde, qu'il y ait une espèce de surcharge de gens qui provoquent comme ça davantage d'émotions encore qu'il y en a déjà parmi les habitants de cette ville de Trèbes.
Alors, Alain Gastal, vous avez justement vécu toute la journée sur place. Quel est le sentiment auprès de la population ce soir? Ça nous arrive à nous, dans cette petite ville?
Ouais, les gens sont abasourdis, ils ne croyaient pas. Au début d'ailleurs, beaucoup, les voisins pensaient qu'il s'agissait de pétards, ou pensaient même qu'il s'agissait d'un hold-up, simplement, quelque chose d'assez, dirons, classique. Dans une ville comme ça, on n'imagine pas que le terrorisme puisse frapper. Il a fallu plusieurs heures pour que les gens réalisent que c'était vraiment aussi grave que cela. Ils sont encore aujourd'hui abasourdis. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai croisé un des clients du Super U qui a été reçu par la cellule psychologique, qui n'est resté que quelques minutes, qui disait oh, finalement ça n'a pas duré si longtemps. Et visiblement ce monsieur qui est encore en bonne forme, qui est visiblement n'a pas encore saisi toute la gravité de la situation, toute la gravité de ce qui s'est passé, il se dit après tout bon, ça n'a duré quelques minutes, j'ai pu sortir par le frigo. Mais évidemment je pense que les contre-coups de ce qui s'est passé aujourd'hui, ils risquent de les ressentir dans les prochains jours, comme d'ailleurs la plupart des habitants de Trèbes qui sont encore sous le coup de l'émotion. Mais ça va sans doute durer pendant de longs moments.
Une chose encore, Alain, vous avez vécu les événements sur place. On a tout de suite, le ministre de l'Intérieur a dit, je tiens à féliciter les forces de l'ordre qui se sont mis en action très vite. Vous avez pu le constater aussi ça, de voir ces forces de l'ordre aujourd'hui dans un mode opérationnel totalement actif.
Alors moi, quand je suis arrivé, c'est-à-dire à peu près une heure et quart après la prise d'otage, puisque je venais de Toulouse, oui, le périmètre était complètement bouclé. Depuis la sortie de l'autoroute, c'était très 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 compliqué de s'approcher. Il a fallu presque ramper pour échapper à la police et pour arriver à un endroit où on voyait à peu près ce qui se passait. Le périmètre était en tout cas très très bien organisé. Ça, c'est clair que l'opération de police a été parfaitement organisée, parfaitement masquée. On nous a même éloigné de quelques dizaines de mètres pour qu'on ne voit pas l'intervention des CRS et qu'on ne puisse pas la raconter en direct, évidemment, pour ne pas risquer de prévenir l'auteur de la prise d'otage. Donc ça a été clairement très très bien organisé. Ce que peut-être certains rajoutent, c'est qu'il y avait à l'intérieur du Super U, parmi les clients, un gendarme à la retraite, et que c'est ce gendarme à la retraite qui a également organisé une partie de l'évacuation et qui a évité notamment que le drame soit encore plus grand. On pense évidemment à lui ce soir, et puis on pense surtout au lieutenant-colonel donc qui a pris la place de l'otage et qui a été grièvement blessé.
Merci beaucoup Alain Gastal, vous étiez sur place pour France Info, donc à Trèbes. Tout de suite, nous allons également rejoindre un homme qui connaît bien ses affaires. C'est un ancien magistrat, ancien député, président de la commission d'enquête sur les attentats de 2015. Bonsoir Georges Fenech.
Bonsoir.
Alors, une nouvelle fois, quand on a vécu finalement aussi cette prise d'otage, quel a été, vous, votre sentiment, vous qui connaissez bien ces dossiers, vous vous êtes dit, la France de nouveau frappée ?
Oui, c'est vrai que depuis quelques mois, nous avions été épargnés de tout attentat, et malheureusement, celui-ci vient nous rappeler cruellement le niveau de la menace très élevé. Le bilan est très lourd, hein, 3 morts et 16 blessés. Mais dans ce drame, tout de même, ce qu'on peut saluer, indépendamment des actes héroïques que vous venez de saluer, c'est les nouveaux dispositifs qui ont été mis en œuvre depuis les attentats du Bataclan, dont on avait tiré les conséquences, et le fait d'avoir formé, équipé ces forces dites intermédiaires, notamment le PSIC Sabre, qui est aujourd'hui formé par le GIGN, a permis une intervention rapide, immédiate, sans attendre l'arrivée des forces d'élite de Paris, vous comprenez. Donc ça a sans doute évité aussi un plus grand nombre de victimes, et pour moi ça a été un soulagement.
Et pourtant, une nouvelle fois, Georges Fenech, ce soir, on parle de fichiers S, de personnes qu'on n'a pas vu se radicaliser. On a l'impression de reposer toujours les mêmes questions, de se poser les mêmes problèmes. On est confronté à la même chose.
Exactement. On retrouve toujours la même question, le même profil, c'est-à-dire d'un individu qui est sous les radars, qui est tout de même fiché S, qui est sous contrôle des renseignements, qui a été déjà condamné, qui est un délinquant de droit commun, et malheureusement, il passe à l'acte. Et ça a été le cas pour, souvenez-vous, Charlie Hebdo avec les frères Kouachi, ça a été le cas pour les assaillants du Bataclan qui étaient fichés, et contrôlés et surveillés. Donc là, je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de marge de progression par rapport à ces individus. Il vaut mieux, comme je le dis souvent, il vaut mieux avoir une logique de précaution que d'intervention a posteriori où c'est déjà trop tard.
Et cela, mais c'est possible ça, Georges Fenech que...
Oui.
C'est possible. Pardon? Ça. C'est possible justement cette mesure de prévention.
Alors écoutez, on a voté des lois, notamment quand on est sorti de l'état d'urgence, le 30 octobre 2017, l'autorité administrative aujourd'hui peut prendre des mesures d'assignation à résidence, de contrôle bracelet électronique, contre des individus qui ne sont pas passés à l'acte, mais qui pourtant présentent manifestement un caractère dangereux, potentiellement de passage à l'acte. Et je n'ai pas à ma connaissance, en tout cas je ne sais pas qu'il y ait eu une seule décision qui ait été prise depuis l'application de cette loi en cette matière. Bon, la question va être évidemment au niveau de l'enquête, de savoir pourquoi il y a eu cette sous-évaluation, il faut le reconnaître, de la dangerosité de cet individu qui était pourtant fiché S. Et toute la question est de savoir comment augmenter la précaution et la prévention de ces actes terroristes. Je pense que là encore, il faut remettre cette question sur le tapis et y réfléchir très sérieusement.
Merci beaucoup, Georges Fenech, ancien magistrat, ancien député, président de la commission d'enquête sur les attentats de 2015. Merci pour votre témoignage ce soir dans les Informés de France Info. L'info à 20h40, c'est Lauriane Delanoë.
Des vies fauchées par un terroriste. 3 attaques sur quelques kilomètres ce matin dans l'Aude, entre Carcassonne et Trèves. Des CRS et automobilistes attaqués. Les salariés et clients, une 50aine de personnes prises en otage dans un supermarché. Au moins 3 morts et 16 blessés, dont 2 dans un état grave. L'assaillant Redouane Lakhdim, abattu dans l'assaut du GIGN. Ce franco-marocain de presque 26 ans était fiché S, mais rien ne laissait présager un passage à l'acte terroriste, précise ce soir le procureur de Paris en charge de cette enquête. François Molins indique que le suspect s'est décrit comme un soldat de l'organisation État islamique. Ce soir, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb est au chevet des blessés et leur famille à l'hôpital de Carcassonne. Le terrorisme qui frappe une fois encore en Afghanistan. Au moins 13 morts, une trentaine de blessés aujourd'hui. Une voiture piégée a explosé devant un stade à Lashkargah, une ville au sud-ouest du pays. Pas de revendication pour l'heure. À Montpellier, des hommes cagoulés et armés de lattes en bois ont agressé la nuit dernière des étudiants qui occupaient un amphithéâtre de la faculté de droit. Des étudiants mettent en cause le doyen de la fac. La situation nous a échappé, en aucun cas je n'ai encouragé les violences, se défend Philippe Pétel sur France Info.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, la ville de Trèbes aujourd'hui s'est rajoutée sur la liste des cités ayant subi un acte terroriste, puisque c'est là que Redouane Lakhdim a retenu en otage dans un supermarché plusieurs personnes. Auparavant, il en avait déjà tué une pour s'emparer de son véhicule, a tiré sur des CRS à Carcassonne. Le bilan de cette opération terroriste, c'est 3 morts, 16 blessés, dont 2 dans un état grave. Pour en parler ce soir, autour de nous, il y a Étienne Gérard de Marianne, Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordinateur en renseignement, et vient de nous rejoindre Audrey Goutard. Bonsoir.
Bonsoir.
Chef du service police-justice de France Télévisions. Audrey, vous avez entendu tout à l'heure François Molins.
Oui.
Une chose, on se rend compte à chaque fois au départ, dans ce genre d'affaires, malheureusement, on parle d'un acte, d'un homme seul. Même Gérard Collomb avait dit il a agi seul. Mm-hmm. Et ce soir, on se rend compte que l'enquête continue autour d'une femme. Donc ça pourrait éventuellement aussi avoir une complicité.
Non mais effectivement, vous avez raison, la terminologie loup solitaire, on l'a entendu dans l'affaire Mohamed Merah, et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait autour du terroriste des gens qui agissaient, qui tenaient la main, etc. C'est toute la problématique pour les enquêteurs dans ces situations-là, c'est qu'effectivement vous pouvez avoir un seul tireur, mais derrière un support. Là on voit par exemple que cet homme était connu depuis 2014, puisqu'il était fiché S depuis 2014, qu'il naviguait dans les milieux salafistes, et qu'il avait une attitude qui avait suscité l'inquiétude des services de renseignement et qui le surveillaient régulièrement. Ils l'avaient surveillé encore il y a quelques mois. Ils avaient fait ce qu'ils appellent des sondages pour voir s'il était vraiment radicalisé, jusqu'à quel point. Donc autour de ces hommes seuls, il y a quand même effectivement toujours un coussin, si vous voulez, qui leur les fait rebondir vers des actes terroristes. Mais le fait est, c'est que pour le moment, dans l'état actuel de l'enquête, mais elle ne fait que commencer, il a agi seul, effectivement. La personne qui a été interpellée, qui est en garde à vue, là, en ce moment même, c'est sa conjointe. Ses parents pourraient se retrouver en garde à vue, etc. Tout son entourage va être entendu
aussi,
évidemment. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils sont complices.
Jérôme Poirot, tout à l'heure, vous avez entendu, on avait Georges Fenech qui nous dit, en fait, il y a des lois à appliquer. Est-ce que c'est ça aussi aujourd'hui, c'est tout simplement des lois, ou alors il faut réfléchir encore à autre chose? On en est au moins à la 12e loi antiterroriste. Est-ce qu'il faut réfléchir à autre chose?
Ah, ce ne sont pas tout simplement des lois. Mais nous sommes dans un état de droit. Et dans une grande démocratie, c'est le respect de la loi qui doit primer, y compris quand il s'agit de lutter contre des barbares, de lutter contre des terroristes. Et vous savez, ce qui est rassurant, en fait, c'est que les démocraties sont beaucoup plus fortes que les terroristes. Et il n'y a pas d'exemple de démocratie qui a été abattue par des terroristes. Mmh. Et la frontière, vraiment la ligne à ne pas franchir dans une démocratie, c'est d'utiliser les méthodes qui ne sont pas celles qui sont prévues par la loi.
Alors, on va écouter justement une des personnes qui était retenue en otage, qui a réussi à s'enfuir, a donné son témoignage tout à l'heure à la presse, aux médias. On l'écoute, c'était il y a quelques heures derrière le supermarché donc de Trèbes.
Je me suis protégé, non, parce que quand il m'a vu, donc il m'a couru après avec le couteau. Alors je sais pas s'il restait plus de balles ou quoi que ce soit. Il m'a couru après. Et puis quand je me suis retourné, il était plus là. Donc moi, vous savez, je suis comme les autres. J'ai réussi à sortir par une issue de secours. Les gendarmes arrivaient, donc aux gendarmes, je leur ai redit la position, ce qu'il avait dans les mains. Et puis voilà.
Voilà, l'un des otages donc du supermarché de Trèbes. Audrey Goutard, quand on parle d'enquête, aujourd'hui, ça veut dire qui est mobilisé pour enquêter?
Vous voulez dire en ce moment même. Vous avez évidemment la DGSI, donc qui est le service de renseignement intérieur de la police. Vous avez la police judiciaire, la SDAT, qui ce sont des policiers donc de police judiciaire qui suivent effectivement une procédure et qui suivent la loi, qui fait que il y a un cadre très précis sur la façon d'enquêter. Par exemple, lorsque vous interpellez quelqu'un, vous le placez en garde à vue, comme c'est le cas de la compagne du terroriste. Donc voilà, vous avez tout un circuit qui se met en route avec aussi l'UCLAT. Donc,
l'UCLAT
donc c'est la coordination effectivement de lutte contre le terrorisme, pour parler dans notre langage.
Oui.
Et c'est donc là, effectivement, que tous les services de renseignement déposent, si vous voulez, leurs informations. Il y a un travail de synthèse qui est fait. Il y a un travail de longue haleine. L'UCLAT a de plus en plus de moyens, notamment depuis les campagnes terroristes, de plus en plus de moyens. C'est un service qui est, vous me contredirez si je me trompe, hein, qui est composé de près d'une centaine de personnes maintenant.
D'accord. Hein, donc, plus qu'avant, en fait.
Et qui fait un travail de fond sur la menace terroriste.
Donc on le voit, Jérôme Poirot, il y a eu un véritable recrutement aujourd'hui quand même pour de nouveau travailler. Quand vous le disiez tout à l'heure, ça avance. C'est dans ce sens-là, quoi.
Ah, bien sûr, il y a...
Il y a un avant et un après, véritablement.
Mais sur tous les fronts, sur la question des moyens humains, les services de renseignement connaissent depuis 10 ans une augmentation continue, tous les ans. Il y a davantage de personnel dans les services de renseignement, des progrès considérables en matière technique. Les choses qui ont été faites dans ce domaine font que la France est devenue un des grands pays en matière de renseignement technique. Et puis, il y a l'évolution du cadre juridique.
On moque parfois le fait qu'il... Alors, juste, voilà. Alors, excusez-moi. Alors, non, juste une petite chose. Alors, en fait, je vais vous expliquer une chose qui est terrible, Jérôme Poirot. C'est que dans ce studio, en fait, il ne faut pas, en fait, bouger juste ses jambes en dessous parce qu'on ne vous entend plus après. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça. On n'a pas entendu vos belles explications. C'est un petit piège. Hein, vous savez, au service public, on est un peu taquin. Donc, juste, excusez-moi. Donc, on est en effet assez fort à ce niveau-là en France.
Oui, bien sûr.
Sur le service technique, justement, de renseignement.
Sur les questions techniques, bien sûr, il y a des efforts considérables qui ont été entrepris depuis 10 ans et qui sont des efforts permanents. Et puis l'évolution du cadre juridique, qui est souvent moqué parce qu'on vote des lois régulièrement pour adapter le dispositif juridique antiterroriste, mais c'est une nécessité, bien sûr.
Audrey Goutard.
Ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'à la DGSI, donc dans toujours les services de renseignement, il a fallu s'adapter à la nouvelle situation. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il y a eu une grande campagne d'embauche, ils ont cherché non pas un profil d'espion à la James Bond, mais plutôt des analystes polars sur leurs ordinateurs, capables, effectivement, de rentrer dans les circuits des djihadistes, qui eux-mêmes utilisent toutes les messageries électroniques, etc. Et donc, ce sont justement des analystes totalement bilingues, même parfois trilingues, qui travaillent sur leurs ordinateurs et qui, parce que finalement, en matière de renseignement, le plus important, c'est la source, c'est l'information qui va permettre de prévenir des attentats. Je vous rappelle quand même que depuis le début de l'année, 2 attentats ont été déjoués. L'année dernière, 20aine d'attentats a été déjoué. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut s'étonner que les services de police n'est pas identifié les personnes qui se le terroriste. Mais néanmoins ils en identifient en permanence.
Alors une chose tout de même aussi, Jean Poirot, c'est vous parliez d'information. Une nouvelle fois, vous savez, le ministère de l'Intérieur avait mis en place l'application SAIP, le système d'alerte d'information de population. Ça n'a pas encore marché. Voilà, une nouvelle fois, quand on était dans les environs malheureusement de Carcassonne, ça n'a pas fonctionné, comme à Nice ça avait du retard, comme l'attaque du Louvre également. Est-ce que vous pensez que c'est un gadget, ça, finalement?
Non, je ne sais pas si c'est un gadget, mais si ça ne fonctionne pas, il faut se poser la question, soit de l'adapter, soit d'en faire autre chose. Mais vous savez, l'information circule à une telle vitesse que les chaînes d'information sont une source d'information pour l'ensemble de l'État extrêmement précieuse. Vous savez, la première fois, c'était le président Kennedy. Il y a des images très frappantes d'émeutes, dans le cadre d'émeutes raciales, je crois, en Géorgie, pendant qu'il était président. Et le président américain était informé en regardant la télévision.
D'accord, très bien. Donc voilà, ça peut aussi servir, hein, finalement, la télévision. Oui. Allez, l'info à 20h50, Lauriane Dehanoé.
Rien ne laissait présager un passage à l'acte terroriste, d'après le procureur de la République à Paris, François Molins. Et pourtant, Redouane Lakhdim, fiché S, a tué 3 personnes et blessé 16 autres au moins ce matin dans l'Aude. Des attaques d'abord à Carcassonne contre des automobilistes et des CRS. Et puis une prise d'otage dans un supermarché de Trèbes, une petite commune. L'assaillant est entré dans le magasin en assurant qu'il était un soldat de l'organisation État islamique. 50 personnes à l'intérieur, certaines ont pu fuir. Un lieutenant-colonel de gendarmerie s'est ensuite porté volontaire pour prendre la place d'une otage. Il a été blessé par balle. Arnaud Beltrame lutte contre la mort, indique ce soir Emmanuel Macron. Comment l'assaillant s'était-il radicalisé? Où s'était-il procuré l'arme? Tous les moyens nécessaires pour obtenir des réponses seront mobilisés, promet le président. Un chiffre à retenir ce soir, 55% pour un peu plus d'un Français sur deux. La mobilisation des fonctionnaires et cheminots hier est plutôt un échec. Résultat d'un sondage Odoxa Denso Consulting pour France Info et Le Figaro. Les manifestations ont rassemblé entre 320 000 et 500 000 personnes hier dans les rues de France. Un match pour affiner les choix tactiques à moins de 3 mois de la Coupe du Monde de football. Les Bleus reçoivent la Colombie dans 10 minutes au Stade de France. France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'est bien sûr l'actualité depuis le début de l'après-midi. Cette prise d'otage, hein, donc survenue au supermarché de Trèbes, ce terroriste, donc Redouane Lakhdim, donc qui avait assassiné déjà une personne pour prendre son véhicule, tiré ensuite sur des CRS qui revenaient d'une séance de jogging à Carcassonne. Il a été dans cette ville de l'Aude. Il s'est réfugié donc dans un supermarché et deux hommes donc du GIGN, ont été blessés avant qu'ils abattent le preneur d'otages. Ce soir, 3 morts, 16 blessés, dont 2 dans un état grave. Et forcément, quand on parle d'actes terroristes, de temps en temps, la politique reprend le dessus. Étienne Girard, je sais que c'est davantage votre parti. Et forcément, on revoit toujours les mêmes qui réagissent. On va regarder les tweets. À votre avis, de qui, à votre avis ?
Marine Le Pen.
Mais Marine Le Pen, exactement. Voilà, Marine Le Pen qui a tout de suite tweeté, en effet, si le profil d'étranger fiché pour radicalisation se confirme, eh bien, il faudrait appliquer ce que nous souhaitons, c'est-à-dire renvoyer tous les fichiers S. C'est du grand classique, Étienne Girard, ça.
Ah, c'est du grand classique, mais il faut préciser qu'une telle proposition implique de sortir de l'état de droit, puisque c'est les policiers, c'est le gouvernement qui décide de qui est fiché S, et ce serait donc au même gouvernement de décider qui est expulsé. Donc voilà, faut savoir qu'on sort totalement de modèle de société si on applique ce que désire Marine Le Pen.
Justement pour vous, Jérôme Poirot, est-ce que c'est encore un débat, le fiché S ? On le voit, on l'a dit tout à l'heure, brandi à chaque fois par certaines personnes comme Éric Ciotti, comme Marine Le Pen. Est-ce que c'est encore un débat ?
Ah, un débat, manifestement, mais c'est d'une utilité incontestable.
D'accord. C'est toujours ça qui fait qu'à un moment, il faut agir, il faut faire agir aussi les services de renseignement.
C'est un moyen parmi d'autres, mais c'est un moyen très important à la disposition, non seulement des services de renseignement, mais de l'ensemble des forces de sécurité. Et il faut insister, c'est un système qui n'est pas que français, mais qui est interconnecté au sein de l'espace Schengen. Donc il a une puissance très importante et très précieuse.
Audrey Goutard, à propos d'espace Schengen, c'est aussi la question qui revient à chaque fois. Est-ce qu'au niveau européen, ça s'est davantage organisé ? À un moment, on avait un peu de mal à s'organiser, à transmettre des informations. Est-ce que maintenant, ça s'est organisé ?
D'après mes informations et les services de renseignement français, il y a effectivement une vraie coopération maintenant, notamment avec les Belges, qui n'était pas évident à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des bisbilles entre les différents services. Oui. Maintenant, effectivement, il y a un travail, ça bosse ensemble. Comme vous disiez, le principe des fiches S, c'est pas un fichier classique, c'est un fichier pour voir où circulent les gens. C'est-à-dire que c'est ce qui permet à chaque frontière d'appuyer sur un bouton et dire tiens, monsieur machin est passé par là, etc. Donc effectivement, c'est un travail européen qui fonctionne de mieux en mieux et en tout cas au sein de l'Europe. Alors après, je voudrais rebondir sur le tweet de Madame Le Pen. Je rappelle quand même que la personne qui a été neutralisée là était française. Oui, donc oui. Voilà. Oui. Quand on regarde l'ensemble des fichiers S, d'abord un fichier S, c'est pas obligatoirement un islamiste. Et puis sur les 9500 de mémoire islamistes fichés S, il s'agit pour une grande majorité de binationaux ou de nationaux.
Parce que c'est vrai qu'Étienne Girard, on se souvient quand la loi, nouvelle loi antiterrorisme était passée, c'était pour la droite, c'était laxiste, pour la gauche, c'était liberticide. Voilà, on se demande, c'est toujours des débats au sein de la classe politique française. Hein.
On va se retrouver avec le même débat dès ce soir et dans les jours qui viennent. D'ailleurs, on voit que à droite de l'échiquier politique, c'est la position la plus dure qu'il a emportée, puisque les Républicains sont maintenant dirigés par quelqu'un, Laurent Wauquiez, qui veut interner les personnalités fichées F. C'est un vrai débat sur le modèle de société qu'on veut, puisque évidemment, interner tous les fichiers S ou expulser les fichiers S binationaux, ce serait efficace, puisque toutes les personnes soupçonnées peut-être d'être dangereuses, on les enlève de la France ou on les enferme. Donc c'est efficace. Mais est-ce qu'on est toujours dans un état de droit? Je ne crois pas, parce qu'il y a une figure qui est importante dans un état de droit, c'est le juge. Et c'est lui qui décide si on expulse, si on peut vraiment expulser quelqu'un ou si on enferme quelqu'un.
Néanmoins, il y a un vrai problème. Enfin, on peut pas non plus se fermer les yeux. Il y a un vrai problème aujourd'hui pour identifier les personnes radicalisées susceptibles de passer à l'acte. Et il y a un vrai problème dans les prisons. À chaque attentat, on en parle. À chaque fois, on se le dit. Et à chaque fois, on dit qu'il faut changer les choses. Alors, il y a un cadre de loi, il y a tout ce qu'on veut au niveau des textes, mais au niveau de la psychologie et du passage à l'acte, et on se rend compte souvent qu'il s'agit de gens psychologiquement très fragiles, eh bien, on n'a toujours pas trouvé la solution pour les identifier et les neutraliser.
Allez, les informés de France Info, ça va se terminer. Merci beaucoup, Audrey Goutard, d'être passé ce soir.
Avec grand plaisir, toujours.
Mais bien sûr. Merci, Jérôme Poirot-Jeu. Signale que vous avez écrit avec Hugmutu, Dictionnaire du renseignement. C'est publié chez Perrin, c'est assez énorme. En même temps, et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, en tout cas, pour s'y plonger et comprendre le monde actuel. Merci également, Étienne Girard, la une de Marianne.
Merci. Oui, nouvelle formule cette semaine. Oui. Macron, la tentation de la toute-puissance.
Ça serait bien, vous n'arrêtez pas, hein, vous, en tout cas, avec Macron.
Oui, voilà, on aime bien s'intéresser à lui.
Voilà, exactement.